Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, salut Chris, on est en soum-soum, on est tous les deux parce que Big Rusty là est sur quelques gros dossiers, on vous tient au courant bien évidemment. Donc là on va parler de l'UFC de ce week-end qui est hyper intéressant parce qu'il y a, franchement il y a du prospect, c'est peut-être la carte où il y a le plus de prospects. Et ce qui est intéressant c'est qu'au-delà des combats classiques de l'UFC, à savoir vous mettez un prospect contre une figure un petit peu vieillissante et vous voyez clairement le favori, en tout cas celui que l'UFC a envie de faire monter, on a un main event où là c'est point d'interrogation partout autour. On est d'accord Chris?
Oui.
Oui. Oui, on est d'accord. Générique.
Soit.
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
Le main event de cette UFC Fight Night à l'UFC Apex, c'est Arman Tsarukyan contre Mateusz Gamrot. Tsarukyan qui avait été révélé finalement, et puis vous pouvez regarder aussi son run UFC, c'est peut-être le gars qui est le plus détesté par l'UFC, en tout cas pas par l'UFC mais par les matchmakers de l'UFC. J'ai jamais vu un mec qui a une carrière UFC aussi hardcore. Premier combat contre Islam Makhachev, un combat où il y a peut-être eu, je crois que, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que pour un combat qui valait la décision, il n'y avait jamais eu aussi peu de frappes mises de part et d'autre d'un combat. Finalement c'était du grappling entre les deux, absolument somptueux comme combat entre les deux hommes, c'est... Ouais, combat magnifique, il avait perdu à la décision, et depuis, inarrêtable ce monsieur. Dernière victoire contre Joel Alvarez, qui était aussi un gros prospect de l'UFC, qui s'est pris un ground and pound de l'enfer, et de l'autre côté, Mateusz Gamrot, ancien champion du KSW, il a débuté par une défaite très 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 serrée, on est d'accord?
Ouais, très d'accord.
Contre le...
Très controversé.
Exactement.
Contre Gouram, qui a fait un magnifique combat de nouveau hier. Et lui aussi, on lui fait pas de cadeau. Hein.
C'est ça, ouais. Pour son deuxième combat, cadeau, c'était chaud. Et surtout que lui, bah aussi, s'est retrouvé là du mauvais côté, puisque c'était très serré. Et malheureusement, oui, ça s'est mal terminé pour lui. Donc, Chris, Tsarukyan, Gamrot, qu'est-ce qui peut se passer?
Un peu tout.
Oh.
Un peu tout. C'est ça qui est vraiment chouette. Donc, on a deux combattants qui... essayent d'amener leur lutte dans l'équation assez rapidement et assez tôt dans le combat avec un grappling qui est assez spectaculaire. Il y a pas mal de différences que je vais, desquelles je vais parler juste après. Malgré le fait qu'ils soient plutôt axés et orientés lutte, ils ont tous les deux bien progressé en pied-point et ils offrent un pied-point, j'ai envie d'utiliser le terme compétent, ils ont un pied-point qui est réfléchi, qui est assez propre, avec une responsabilité défensive particulièrement du côté de Tsarukyan. Je dirais, défensivement, il est bien en place. Il sait quand attaquer, il sait comment attaquer. Il varie bien les boxes anglaises, les kicks et tout ce qui s'ensuit. Gamrot, il a une bonne force de frappe. Il est assez propre dans ses attaques. Il y a peut-être au niveau défensif où il y a plus d'ouverture. Donc j'aurais tendance à dire que si on faisait un combat de... pied-point MMA, où les takedowns ne sont pas autorisés, je mettrai un léger avantage du côté de Tsarukyan. S'il s'affronte 10 fois, voilà, je le mettrai vainqueur 7 fois en pied-point. Pour l'approche en lutte, là, je vais dire qu'on a un Tsarukyan qui est potentiellement plus complet, c'est-à-dire qu'il a plus de variété dans ses options. Il sait shooter dans les jambes et compléter son takedown à partir de là. Il sait... partir du clinch avec un body lock amené au sol avec ou sans crochetage de jambes. Il a des techniques de judo qui sont assez efficaces. De l'autre côté, on a un Gamrot qui est plutôt un lutteur freestyle, qui va shooter très bas dans les jambes et qui arrive à compléter de là. Et il excelle probablement plus dans ce domaine que Tsarukyan. Donc il y a un côté un peu plus complet du côté de Tsarukyan et un côté peut-être plus... fort, mais dans un sous-aspect de la lutte du côté de Gamrot. Alors moi, il y a un truc que j'apprécie énormément dans les différences entre les deux, c'est que Tsarukyan, défensivement, il a un mindset scramble, c'est-à-dire que si on shoot sur lui, comme on l'a vu contre Makhachev, et c'est ça qui a donné toute la beauté du combat, il va d'abord essayer de scramble pour sortir ou pour prendre une position. Par contre, offensivement, Tsarukyan, c'est quelqu'un qui va contrôler les scrambles et qui va chercher vraiment le contrôle rapproché, créer la distance juste pour frapper. Et, comme tu l'as dit contre Joel Alvarez, massacre, quoi. C'était incroyable, ce ground and pound. De l'autre côté, Gamrot, on n'a pas souvent vu défendre des amenés au sol, mais en tout cas, offensivement, et c'est très, très rare de voir ça, il a un style de scramble offensif. Je ne sais pas comment le décrire différemment. C'est quelqu'un qui va shooter pour faire réagir l'adversaire défensivement, et sur base de la réaction défensive, il va laisser un peu d'espace pour qu'il y ait du mouvement, et sur base de l'espace laissé, il va essayer de capitaliser dessus. Pour prendre un bête exemple, souvent il shoot très très bas, il prend une low single. Le réflexe classique quand quelqu'un shoot sur une low single, c'est de se retourner, offrir un peu son dos, et comme il anticipe ça, il vient chercher le dos. Il l'a fait plusieurs fois dans sa carrière, il l'avait fait notamment contre plus ou moins contre Jeremy Stephens, qui lui permet de prendre le contrôle. Et en fait, une fois qu'il est au sol, il va tout le temps laisser de l'espace, il y a une lumière qui s'est levée, et il va tout le temps laisser de l'espace pour créer du mouvement, mais pour capitaliser dessus, ce qui est très intelligent. Et en fait, c'est cette partie-là, je ne sais pas comment ça va fonctionner entre l'un et l'autre, mais ça va être super chouette.
Et toi, est-ce que tu distingues un favori particulier dans ce combat, ou on est sur du 50-50 quand même?
Non, j'ai pas regardé les codes de Paris. Si je devais mettre des codes de Paris, je mettrais tout de même Tsarukyan favori à 1.4, 1.55.
Oh, et ben c'est ça, donc... ouais. 1.1, 36 Tsarukyan, 3.25 pour Gamrot.
Oui, en fait, je vais essayer de dire ça sans manquer de respect à Gamrot. Pour moi, c'est deux athlètes qui vont arriver dans le top 5 de la division. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment être des gros, gros problèmes dans cette division. C'est juste d'un point de vue style, j'ai l'impression que Gamrot, comme il laisse faire les scrambles à ses adversaires pour capitaliser dessus, ça n'a pas fonctionné contre Tsarukyan, qui a des trop bons scrambles défensifs, et j'ai du mal à voir Gamrot contrôler Tsarukyan au sol. À l'inverse, j'ai l'impression que Tsarukyan serait capable de contrôler Gamrot au sol, et en plus de ça, je pense que debout, comme je le disais, il a un léger avantage. Donc, il a un léger avantage partout, ce qui, pour moi, le place en favori modéré. Alors, clairement, Gamrot est capable de mettre quelqu'un KO. Il l'a montré contre Holtzman. Il est capable de faire beaucoup, beaucoup de dégâts au sol, de prendre des... Justement, c'est quelqu'un qui prend les soumissions à la volée. C'est difficile de défendre, parce que comme il laisse l'autre bouger, ben, t'es en train de bouger, tu penses défensif, je vais me relever. Et puis, c'est là où il y a une opportunité, où il vient la saisir très, très rapidement. Donc, il pourrait trouver une ouverture sur un finish. Si ça va à la décision, et je pense que ça pourrait vraiment aller à la décision, je vois Tsarukyan s'imposer en prenant les rounds, et je peux le voir finaliser, puisque depuis ces deux derniers combats, on voit clairement des compétences d'opportuniste, vraiment.
Il y a quand même une petite question sur Tsarukyan. Moi, je partage entièrement ton avis, je le mets légèrement favori. Il a déjà manqué le poids, Tsarukyan. Et ça, est-ce que pour toi, ça peut jouer aussi pour ce combat-là? Premier main event, premier combat en 5 rounds dans 6 pour lui, possiblement, si ça va jusqu'à la décision. C'est le seul point d'interrogation que j'ai pour lui. Parce que sinon, depuis le début de sa carrière à l'UFC, je trouve que c'est ce qu'il fait, c'est très, très, très impressionnant.
C'est un très bon point que tu relèves, parce que Gamrot, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu de contrôler absolument son adversaire, parce qu'il a confiance en sa capacité de le remettre au sol plus tard dans le combat. Et il sait que mettre quelqu'un au sol, qui doit se relever, le remettre au sol, qui doit travailler pour se relever, ça fatigue énormément. Et je pense que Gamrot a une sacrée confiance en son cardio, en son conditionnement, et même en sa compétence dans la fatigue. Je vais prendre un exemple d'un combat qui est, on va dire, comparable. Peu de gens en parlaient avant le combat, et au final, ça a été absolument extraordinaire à regarder. Gregor Gillespie contre Carlos Diego Ferreira. Et c'est un peu ça. Gregor Gillespie s'est fatigué au début à amener au sol. T'as l'impression qu'il était plus fatigué que Carlos Diego Ferreira. Mais dès le moment où il a amené CDF au même état de fatigue que lui était plus compétent dans la fatigue, parce qu'il a l'habitude de grinder, ou enfin tu vois, de combattre dans la fatigue. Et je pense que ici, potentiellement, effectivement, Gamrot pourrait devenir de plus en plus compétent au fil du combat, parce que Tsarukyan pourrait commencer à montrer des tendances de fatigue et perdre en compétence dans la fatigue, chose que Gamrot ne perd absolument pas. On l'a vu dans le troisième round contre Gouram, on voyait qu'il était fatigué, visuellement on le voyait, mais en compétence, en technique et dans sa lucidité, ça se voyait absolument pas. Il faisait les bonnes choses au bon moment, en tout cas dans l'aspect lutte.
Chris, le pronostic.
Je pense que je vais partir sur Tsaroukian à la décision. Tsaroukian, c'est incroyable. Finaliser Joel Alvarez au sol, c'est quelque chose. Joel Alvarez est très dangereux de son dos. Mais j'ai l'impression que ça va être encore plus compliqué de finaliser Gamrot. Donc je vois l'emporter dans un combat compétitif mais clair. Donc ça veut dire qu'on va avoir des rounds qui sont compétitifs, mais ce sera pas trop difficile de les scorer pour Tsaroukian. Donc Tsaroukian décision.
Je partage ton avis, décision unanime pour Tsaroukian, et puis j'espère ensuite pour lui que ça se poursuivra dans ce sens-là, parce que franchement très impressionnant ce monsieur. On va passer au Khomeini. Oui, vas-y.
J'allais dire, j'espère pour les deux. En fait, j'espère que le gagnant continuera son ascension et que le perdant va directement retrouver le chemin de la victoire et également faire une percée vers le top 5.
Et ben voilà. On avance avec le co-main event. Donc, c'est Neil Magny qui rêvait d'avoir le combat contre Khamzat Chimaev. Finalement, il va se taper l'autre phénomène invaincu chez les welterweights, Shavkat Rakhmonov. Bon, ça a l'air compliqué sur le papier pour Neil Magny, mais, et c'est pas un petit mais, c'est quand même quelqu'un qui a du répondant dans le domaine de prédilection de Rakhmonov, et c'est là que le combat est intéressant.
Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais commencer par parler du mindset de Neil Magny. Je trouve que c'est un vrai artiste martial, dans le sens où, potentiellement, qui sait qu'il sera jamais champion, mais son objectif, c'est de combattre contre les meilleurs pour se mesurer aux meilleurs. Et il a vraiment cette approche quand il avait perdu contre Demian Maia. Il a suivi juste après un séminaire de Demian Maia. Et j'aime bien ce genre de petite histoire. Et comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui fait tout. Il veut être actif et il fait tout le temps les call-outs les plus compliqués pour lui. Parce que j'ai vraiment l'impression que son kiff, c'est d'être dans la cage avec quelqu'un qui représente un défi pour lui. Il est très bon partout, mais il n'est pas excellent partout. Et c'est ce qui fait qu'il gagne beaucoup de combats. Il sait comment gagner des combats. D'ailleurs, quand on regarde, c'est assez marrant. Sur ses 18 décisions dans sa carrière, il a 16 victoires pour 2 défaites. C'est assez impressionnant. Donc, c'est difficile de le dominer sur la longueur. Par contre, quand il perd plus par finalisation que par décision. Donc, une fois qu'il est... S'il y a vraiment une différence de compétence, il craque mentalement et il se fait finaliser. On regarde contre Lorenz Larkin, un masterclass de Lorenz Larkin. Il se fait finaliser par Demian Maia, il se fait finaliser par Ponzinibbio, il se fait finaliser par Rafael dos Anjos. Ce sont tous des combattants qui ont deux game plans différents. Soit le surdominer en grappling avec une grosse pression au sol, soit beaucoup de volume debout, le mettre sous pression et faire en sorte qu'il soit le contreur dans le combat. Parce que c'est quelqu'un qui a, quand on s'est debout, il a un bon volume de jeu, il sait très bien mettre la pression, il sait très bien gérer sa distance, ce qui va être un challenge pour Shavkat, qui est généralement plus grand que ses adversaires, et là, ce sera pas le cas. Et par contre, pour Shavkat, je trouve qu'il est tout simplement plus compétent que Neil Magny. Le seul problème, le seul gros challenge, c'est que Shavkat est plus un combattant agressif mais qui cherche le contre, un contreur agressif. C'est pas un combattant à pression qui engage, c'est quelqu'un qui met la pression pour laisser son adversaire faire quelque chose et capitaliser dessus. Et ça, c'est pas spécialement un style qui a fonctionné par le passé contre Neil Magny. Donc c'est pour ça que ce combat est assez intéressant. C'est un très 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 bon test pour Shavkat Rakhmonov.
Et donc quel est ton pronostic?
Je suis légèrement tenté de voir une surprise. Que Shavkat, si je dis pas de bêtises, invaincu et que des finishes.
Ouais.
Un gros opportuniste. Et je peux le voir finaliser au premier round parce que Neil Magny met du temps à rentrer dans le combat et Shavkat Rakhmonov, il a tellement ce feeling, cet œil pour le finish que je peux le voir finaliser dans le premier round. Mais j'ai peur que s'il trouve pas le finish dans le premier round, il perde le deuxième et le troisième. On va aller sur la hype. La hype de Rakhmonov continue. Finish au premier round.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je vais dire, pour moi, TKO de Rakhmonov, deuxième round, parce que c'est vrai que c'est ça qui est très compliqué avec Neil Magny, c'est dès qu'il affronte des mecs qui sont spécialistes dans un domaine, c'est tout de suite très compliqué pour lui. J'ai aussi en souvenir un de ses derniers combats qui était un choc comme ça, c'était face à Michael Chiesa, où il avait aussi été très... Enfin, voilà, on voyait quelqu'un qui était compétent, qui avait du répondant, mais qui n'avait pas toute l'expérience en lutte et grappling qu'avait Michael Chiesa. Et malheureusement, il était tombé à la décision. Il s'était incliné. C'était une de ses rares défaites, d'ailleurs, par décision. Mais tout simplement parce qu'il avait été complètement pressurisé par Monsieur Chiesa. Donc là, j'ai peur de ça. Et comme tu l'as dit, on rajoute le côté hyper opportuniste de Rakhmonov. Et malheureusement, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce qui est bien avec ce combat-là, c'est que pour chaque 4, en cas de victoire, on sera vraiment sur un calibre de futur contender parce que Neil Magny il est membre du top 15, je crois.
Oui, même potentiellement entrer top 10, quelque part proche du top 10, si je dis pas de bêtises. Et il mérite c'est le gatekeeper top 10, même top 8, je dirais. Ouais. Tu le passes, tu fais clairement partie du top 8. Tu le passes pas, tu as des choses sur lesquelles travailler pour y rentrer, parce que c'est vraiment le profil idéal. Il est, comme je dis, très bon partout, mais il excelle nulle part, mais il est pas excellent partout. Quand t'es excellent partout comme Ousmane, tu peux choisir où tu amènes le combat et tu sais que tu peux dominer dans cet aspect-là. Quand tu es Neil Magny, a priori, tu as un endroit du combat où tu seras meilleur que ton adversaire, mais tu n'es pas toujours capable de rester dans cet aspect-là. Et si tu es face à quelqu'un qui est excellent dans un domaine et qui arrive à l'appliquer, c'est ce qui s'est passé contre Chiesa, excellent en grappling, Demian Maia, excellent en grappling, Ponzinibbio, excellent en pied-point, Lorenz Larkin, excellent en pied-point, et sont toutes ces défaites. Et en fait, Rafael dos Anjos, lui, il avait le choix. Ce combat, c'était clairement Rafael dos Anjos, c'est... le Neil Magny, mais avec juste un meilleur niveau partout, et donc il lui a roulé dessus, tout simplement.
Ouais, non, c'est vrai que ça avait été expéditif pour les débuts, en plus de Rafael dos Anjos. Je dis n'importe quoi, c'était son deuxième combat chez les welterweight. Voilà. On avance avec le troisième combat, et puis dernier combat que Chris va analyser, c'est Josh Parisian contre Alan Bodo. Quatrième combat pour Alan Bodo, selon toute vraisemblance, sa dernière chance. Il est légèrement favori, cote à 1,82. Pour Josh Parisian, mais là encore, pas de cadeau pour Alan Bodo. Mais, non. Mais en tout cas, on est derrière lui. Là, c'est la dernière chance pour lui contre un vétéran d'Ares Fighting Championship. Bon, Chris, à quoi peut-on s'attendre?
Alors, j'ai commencé par un point parce que j'avais vu beaucoup sur Twitter des gens qui étaient étonnés que ce soit le Coco Main Event. Et c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui a 0-3 avec une astérisque 0-2 à l'UFC contre un 1-2, je pense, si on considère pas ces combats au Contender Series, il y a de quoi se poser des questions. Quand on regarde leurs combats côte à côte, on comprend le choix de l'UFC, je dirais. Ça va être un combat très chouette à regarder. Pour un combat poids lourd, c'est deux mecs qui envoient énormément de volume, qui sont très compétents debout, et on a du mal à les voir vouloir lutter. Alan Bodo, c'est pas dans son intérêt parce qu'il sera il sera plus léger. et Josh Parisian, c'est pas dans son intérêt parce qu'il fatigue très, très, très vite en lutte. Donc on a l'impression, sur papier, je dirais que ce combat devrait avoir lieu debout. C'est deux mecs qui envoient du volume, c'est deux gars qui savent combiner, c'est deux gars qui ont pas spécialement le KO power, mais qui vont chercher le travail à l'usure, comme la plupart des combattants volumineux. Et donc, ça va être assez agréable. On a d'un côté Josh Parisian qui a un bon footwork défensif hors action. Par contre, en action, son footwork défensif est nulle part. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'action, il va bien circuler sur le côté de la cage, il va créer des bons angles. Par contre, une fois qu'on l'attaque, il va reculer en ligne. That's it. Donc, il y a moyen de lui mettre la pression. Et de l'autre côté, on a Alan Bodo qui se déplace très, très bien pour un poids lourd, qui trouve très bien ses ouvertures, mais qui, de temps en temps, prend des risques non mesurés et qui, en fait, face à un combattant comme Josh Parisian, il pourrait vraiment se faire surprendre dans un échange. Et ça va d'un côté comme de l'autre. J'aurais tendance juste à dire que, pour moi, c'est dans l'intérêt de Bodo d'y aller crescendo, donc de pas se griller dès le début, d'essayer d'attendre que Parisian se déplace plus parce qu'il est plus lourd. Il va donc devoir suivre Alan Bodo et son rythme de déplacement. Il va vouloir envoyer beaucoup de volume. Si au début, il touche pas avec son volume, ça va le frustrer, ça va le fatiguer. Et ça, c'est là où Alan Bodo va pouvoir trouver ses ouvertures plus facilement au fil du temps dans le combat. Donc ce serait pour moi la stratégie que je préconise. Après, je serais certain que nos amis du MMA Factory ont regardé 4 fois plus les combats de Parisienne pour établir une stratégie, mais en regardant une fois chaque dernier combat de chacun, je peux voir un gros avantage plus le combat avance du côté de Bodo, même si on a vu un Bodo fatigué également, mais la raison pour laquelle il fatiguait, c'est soit parce qu'il y avait des échanges en lutte ou au clinch qui étaient très compliqués et très demandeurs pour lui, soit parce qu'il mettait trop de volume dès le début contre Nascimento.
Et puis j'ajoute aussi, concernant la position du combat, c'est, tu l'avais précisé, c'est un choc heavyweight, donc forcément l'UFC a toujours une appétence particulière pour cette catégorie-là. Pour Alan Wynan, c'est vrai que sur ses derniers combats, je mets vraiment de côté moi le combat contre Thomas Spinal parce que c'était short notice. Thomas Spinal, vous voyez où est-ce qu'il est aujourd'hui, il est troisième. C'était pas du tout, l'objectif de l'UFC, c'était juste de maintenir un combat pour Thomas Spinal. Alan, il y a eu cette opportunité pour entrer à l'UFC, il est entré un peu comme le premier combat pour Benoît Saint-Denis. Donc on peut vraiment le mettre de côté ce combat-là. Tous les autres combats, à chaque fois, il aurait pu les remporter. Il était proche de les remporter malheureusement. Et il y a un moment dans le combat où ça a basculé. Donc moi je pense que Alan, pour ce combat-là, il a toutes les chances de s'imposer comme les deux précédents. J'espère juste qu'on va dire mentalement, il est dans un bon endroit, dans un bon espace, parce qu'il y a peut-être quelque chose, parce que même pour le combat contre Nascimento, par exemple, où il fait un super premier round, je lui avais posé la question, même lui, il ne sait pas ce qui s'est passé, en gros, il était un peu off au début du deuxième, et malheureusement pour lui, il s'est incliné. Là, j'espère juste que ça va pas, le fait, tu vois, que sa dernière victoire, pardon, remonte à 2018, que ça commence pas à le travailler, plus le fait que les réseaux sociaux soient hyper nocifs avec lui. Enfin, tu vois, qu'il n'y ait pas tous ces trucs-là qui jouent un petit peu sur lui au fil des combats, parce que même son dernier, en soi, il était dans le combat, on était à 50-50, il y a peut-être un moment où il s'est dit, ça y est, la victoire, elle est sécurisée, sauf que malheureusement, non, aux yeux des juges, elle n'était pas sécurisée, et c'est peut-être ça qui lui a coûté le combat. Donc j'espère que là, il sera vraiment au bon endroit, et s'il l'est, je vois pas pourquoi ça pourrait mal se passer.
Ouais, on peut d'ailleurs parler un tout petit peu de ça parce que c'est, on va pas se mentir, il a signé intelligemment à l'UFC. Je veux dire, quand tu as un combattant de MMA et que Saladin Parlas par exemple, c'est complètement différent. Il sait que la porte à l'UFC est ouverte pour lui et il peut la prendre quand il veut. Il y a beaucoup de combattants qui espèrent être à l'UFC mais qui ont aucune certitude d'y arriver. Donc quand l'opportunité se présente, évidemment que tu signes. Et à mon avis, enfin, là, je spécule un peu, mais je pense que Alan Bodo pourrait le dire lui-même. Quand il a signé contre Thomas Spinal, il savait qu'il était ultra underdog et il savait qu'il avait probablement pas encore le niveau suffisant pour l'UFC. Mais quand l'UFC vient toquer à ta porte, tu dis oui, tu prends ton opportunité, tu profites du nouveau salaire que tu as et que tu n'as jamais eu par le passé pour libérer un peu plus de temps, pour prendre tes préparations plus au sérieux et pour atteindre ce niveau UFC. Donc je pense qu'on ne peut pas critiquer ce choix parce que c'est un choix que 95% des combattants auraient fait. Et au final, ce qui est très important, c'est qu'on le voit progresser. Entre Thomas Spinal, où on n'a pas vu grand-chose, et Nascimento, on voit des améliorations et on voit encore des améliorations entre son combat contre Nascimento et son combat contre Parker. Donc pour moi, effectivement, là c'est un combat, celui qui perd doit partir de l'UFC, que ce soit Parisian ou Bodo, et celui qui gagne, il prouve qu'il a sa place et qu'il a quelque chose à faire à l'UFC, parce que les deux montrent de belles choses, ils sont juste en dessous de ce qu'il faut pour vraiment y rester, et je suis assez content que les deux ont leur chance, parce qu'ils ont tous les deux, je dirais, une histoire qui justifie cette dernière chance, et ils ont tous les deux montré qu'ils avaient le potentiel aussi, qu'ils travaillaient pour avoir ce niveau, pour pouvoir rester, et je pense que voilà, bon, moi je suis belge donc je m'en fous, mais je pense que les supporters français devraient redevenir ou être des supporters par rapport à Bodo, parce qu'il a quelque chose à jouer. Alors voilà, 3 défaites, personne n'aime la défaite, mais sa progression montre qu'il peut arriver à avoir ce niveau UFC et à aller choper des victoires par la suite, surtout si uniquement s'il gagne ce week-end, évidemment.
C'est ça. Et pour les pronostics, personnellement, moi je fais une victoire par décision unanime pour Alan.
J'ai aussi du mal à voir un finish dans ce combat, d'un côté comme de l'autre, peut-être à la fatigue, peut-être à l'usure sur le troisième round, mais j'ai aussi parié sur Bodo à la décision.
Et ben voilà, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Chris, du reste, je pense que c'est tout pour nous. Ce qu'on a à dire quand même sur cette carte-là, c'est qu'il y a d'autres noms, mais on va dire que les combats sont un petit peu moins intéressants, parce qu'il y a Umar Nurmagomedov, que vous connaissez si vous êtes forcément de la team Habib. Donc le petit cousin de Nurmagomedov, qui évolue dans la catégorie Bantamweight. Oui, autant pour
Bantamweight.
Moi.
Je sais contre Maness. Ouais, Maness, je sais que c'est Bantamweight.
Contre, donc, contre Maness en Bantamweight, clairement, il devrait s'imposer. Enfin, il n'y a pas trop de suspense dans ce combat-là. Ce qui est juste intéressant. Enfin, moi, personnellement, ce que j'ai envie avec Umar Nurmagomedov, c'est qu'il y ait plus de combats pour lui. Parce que j'ai l'impression qu'on revoit un petit peu le schéma qu'il y a eu avec Islam Makhachev pendant pendant 3-4 ans, il a, je vais pas dire végété, mais c'était un combat par an, deux combats par an, grand max, et au bout d'un moment, l'UFC se sont dit, bon, bah, faut qu'on appuie sur l'accélérateur, et là, on en est là où on en est aujourd'hui. Ok, il y a du monde dans cette catégorie bantam, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas en lui faisant faire un peu du surplace, je trouve, que, bah, il va pouvoir rapidement progresser, surtout qu'on va pouvoir rapidement savoir où il en est.
Bah, il y a qu'à voir, en fait, il était prévu contre Jack Shore.
Ouais.
Et maintenant, Jack Shore, il combat contre Ricky Simon. C'est pas la même chose que Nate Maness, sans manquer de respect à Nate Maness, mais on voit que les deux étaient au même endroit à un moment donné de leur carrière, et c'était il y a pas si longtemps. Et que voilà, ils ont fait grimper de dingue Jack Shore, et ils devraient faire la même chose avec Umar.
Et on a Chris Curtis contre Rodolfo Vieira. Chris Curtis qui avait un peu créé la surprise hein, contre Phil Ose, avec un combat franchement qui avait mis le feu à la salle. Et Rodolfo Vieira, expert en JJB, qui est arrivé avec une très très grosse hype à l'UFC et qui s'était fait soumettre, je ne sais plus contre qui Chris, mais qui s'était là aussi à la surprise générale.
Ah, il faut que je retourne voir le nom. Effectivement, c'est une surprise générale de chez Général. Est-ce que je peux vite retrouver ça?
Alors,
on va m'entendre cliquer.
Et depuis, il était revenu avec une victoire. Et là, c'est un combat qui est extrêmement équilibré aussi dans cette catégorie middleweight.
Anthony Hernandez.
Voilà.
Je l'aurais dit en plus.
Et ben voilà.
J'avais pas envie de réfléchir, j'étais trop fatigué. J'avais le clic.
Le clic facile. Donc bref, ouais, donc, ça c'est le gros combat. Ouais.
On a que des chouettes combats. On a même Moïse contre Guiagos. Mm-hmm. Et en prélims, on avait vu des chouettes noms aussi juste avant le podcast que j'ai pas retenu. Rolian Paiva qui offre souvent des beaux combats. Mario Bautista qui a des beaux finishes contre Kelleher. Donc, comme la semaine passée, une carte qui passe un peu sous le radar, mais quand on l'observe de plus près, on sait que ça va délivrer.
Ouais. Et il y a pas de nom, mais faites-nous confiance, c'est le genre de carte qui vous permettra de briller en société dans 4-5 ans quand vous direz, vous vous souvenez ce gars quand il était en prime, je l'avais vu lors de cette victoire là. Parce que il y a pas mal de gars que vous risquez de voir dans les années à venir. Chris, c'est tout pour nous.
Yes.
C'est tout pour nous. On se retrouve très très vite. Big shout out à ma sweet pea. C'est les soldes en ce moment, moins 70% sur tous mes protéines. Et puis pour nos savons, c'est onae.fr. Cette dinguerie, le freezer, sort samedi. Allez.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.